Question d'islam par Al Ben Sheikh. Aujourd'hui, dans l'émission Question d'islam, nous parlons de l'islam en débat. Et c'est une collaboration avec Courrier International et France Culture. C'est une émission spéciale. Et j'ai plaisir à recevoir le journaliste Marc Saguier. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes chef du service Moyen-Orient de Courrier International. Et puis vous avez eu cette idée au sein de la rédaction de colliger, de rassembler, d'avoir cette approche compilatoire de textes, pas moins d'une cinquantaine d'auteurs qui fustigent, récusent, condamnent l'islamisme politique, le djihadisme, la terreur au nom de la tradition religieuse islamique. Et vous avez donc donné la parole à ces penseurs libres, à ces libres penseurs aussi, à ces intellectuels, hommes et femmes, musulmans et musulmanes, parfois qui n'ont plus rien à voir avec leur islamité, donc le maître mot étant la liberté. Comment, Marc Saguier, d'abord cette idée vous est-elle venue? Et je pense que vous avez fait œuvre utile en donnant la parole aux lecteurs, au lectorat de Courrier International, mais aux différents lecteurs, de ces prises de position de ces intellectuels.
Si vous voulez, ce livre vient d'une colère, une vraie colère, avec la radicalisation du monde depuis le 11 septembre, la montée de l'islamisme dans les pays musulmans, la montée de l'extrême droite dans les pays occidentaux et la convergence qu'on ne voit pas tout souvent entre l'extrême droite et l'islamisme qui veulent tous les deux mettre les musulmans dans un monde à part, les parquer dans une autre culture, les présenter comme rétifs à toute culture universelle, à toute valeur universelle. Ce livre-là, c'est donner la parole à des gens qui sont de grands intellectuels, mais aussi des citoyens et des citoyennes qui vivent très mal ce hold-up que l'islamisme a fait sur leur vécu, sur leur culture, sur leur langue. La langue arabe aujourd'hui passe pour une langue religieuse. On oublie que c'était aussi une langue de tous les jours, une langue où on s'aime avec cette langue, où on s'invective avec cette langue. Et donc, c'était vraiment nécessaire de montrer que ce monde qu'on nous présente comme monolithique n'est pas monolithique, qu'il n'est pas dans l'unanimisme non plus, qu'il y a des débats. Certains, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui est mis dans ce livre-là, mais c'était important de montrer que des gens peuvent aller très loin quand ils vivent à Alger ou à Beyrouth ou à Bagdad, et que des intellectuels français en France n'osent pas aller si loin parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur d'être traités d'islamophobes, parce qu'ils ont peur d'être mal compris et parce qu'ils ont peur aussi pour leur vie. Alors que là-bas, c'est beaucoup plus dangereux de vivre et de dire des choses à Alger ou à Beyrouth ou à Damas ou à Bagdad ou ailleurs dans le monde musulman.
Et donc l'intérêt de cette compilation et de l'ouvrage, c'est de répondre au moins à la question, toujours qu'on entend, à mon avis maintenant à tort, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut plus entendre, où sont les intellectuels musulmans ?
Les intellectuels musulmans se trouvent aussi bien dans le monde musulman que dans les diasporas. Et il y a certains qui sont partis parce que leur vie était menacée, qui se retrouvent à Berlin, à Londres, à Paris ou à New York. Mais il y a beaucoup encore qui restent sur place. Et la plupart des intellectuels, même s'ils sont aujourd'hui minoritaires, ils ne sont pas des marginaux. Ce sont des enfants de leur siècle. Ce sont des gens qui ont été dans leur jeunesse nationalistes, marxistes, voire islamistes pour certains, et qui ont évolué dans leur temps et dans leur société. Et c'est ça qui est important, c'est dire que la plupart des gens ne sont pas des intellectuels qui vivent dans leur tour d'ivoire et qui commentent pour faire plaisir au lecteur occidental, mais qui vivent ça dans leur chair et dans leur passé et dans leur vécu.
Et leur position ou leur prise de position sont nettes, tranchées, sans embâche, sans équivoque, et qui vont dans le sens des valeurs dites universelles, parce que sur l'universel, on pourra peut-être
oui, bien gloser, sûr. Oui. Mais je pense que c'est un vrai combat de dire que les musulmans appartiennent à la planète et ne sont pas sur Mars, quoi. Ça, c'est un combat très important, et montrer que un musulman peut dire des choses contre le dévouement de sa religion ou de sa culture, et rien ne peut l'empêcher de le faire, quoi.
Et que cette notion du « eux » et du « nous », c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait les musulmans comme un bloc monolithique, et de l'autre, le reste, et tout particulièrement les occidentaux, ça n'a aucune pertinence.
Non, mais je veux dire, même les gens de bonne volonté, regardez un peu dans la presse quand on veut illustrer un dossier sur les musulmans, dire, on n'imagine pas une musulmane sans voile, on n'imagine plus un musulman sans camis et sans barbe ou sans prière. Chez les gens de très bonne volonté, ça a été tellement travaillé dans la tête des gens que c'est devenu des images d'Épinal.
Alors, on commence l'ouvrage, enfin, vous donnez la parole au maire de Rotterdam, Ahmed Boutaleb. En quelque sorte, il est le préfacier de cette compilation.
Tout à fait.
Parce que il est le premier maire d'une grande ville avant celui de Londres, ou simplement pour ses engagements aussi intellectuels et militants.
Je pense que c'est aussi une belle histoire, quelqu'un qui débarque du Maroc, d'une famille pauvre, et qui montre bien que, contrairement à l'idée que les islamistes essaient de nous expliquer sur l'Occident, que l'ascenseur social fonctionne toujours en Occident, qu'un musulman a autant de chances, quelquefois, qu'un non-musulman pour réussir dans la vie et pour être utile à sa société, tout en ne rien niant de son passé, de sa culture et de ses origines.
Est-ce que, Marc Saguier, on peut penser ou craindre, en tout cas, même au conditionnel, on pourrait être inquiet que l'héritage de l'Aufklärung, des Lumières, etc., puisse être battu en brèche, en tout cas altéré, par le trumpisme, ce qu'on appelle maintenant la présidence Trump?
Enfin, le trumpisme, c'est quand même... Il y a un très beau texte d'un intellectuel libanais qui vit aux États-Unis et qui montre que Trump est effectivement un islamiste dans sa vision manichéenne du monde, dans sa vision... Il ne fait que reprendre les thèmes islamistes à l'envers.
Oui, en creux, oui.
Oui, tout à fait.
Ou en négatif.
Oui, je pense que le trumpisme, c'est aussi une des conséquences de tout ce populisme que nous vivons depuis 20 ans partout dans le monde.
Oui, c'est Hassan Naïmé qui est... un fin observateur de la société américaine. Donc après cet effet Trump ou le trumpisme ou cet islamisme en creux, en tout cas en négatif, comme on l'aurait dit d'un cliché, dans tous les sens du terme d'ailleurs, est-ce que cette parole donnée à des intellectuels musulmans, ou se réclamant comme tels, ou peut-être parfois...
De culture musulmane.
Ou de culture... Voilà. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens de dire d'origine,
non,
je ne sais plus.
Absolument.
Eh bien, cette audace intellectuelle et cette pensée libre est caractéristique, en tout cas à la fois de cette compilation, mais aussi de leur pensée.
Oui, tout à fait. Ce sont les enfants de leur siècle, donc ce sont des gens qui ont été travaillés par plusieurs idéologies avant d'arriver à cette conclusion-là, et qui se ressentent tout à fait le besoin de faire partie de ce monde-là. C'est ça le point commun, je pense, de tous les auteurs qui divergent, parce que pour certains, ça sert à rien de réformer tant que les sociétés sont encore loin de créer des classes moyennes capables de régénérer leur monde. Pour d'autres, sur quoi il faut fonder la religion, il faut la refonder, comme vous parliez il y a un instant, sur la morale, comme propose Yassine Haj Saleh, pour Kamel Daoud, qui est plus dans le côté franc-tireur pour secouer sa société. Mais le point commun de tous ces gens-là, c'est cette volonté de dire « nous faisons partie du même monde ».
Parlons de Yassine Haj Saleh. Il est le parangon de l'intellectuel engagé, libre penseur, ou penseur libre, parce que l'épithète, une fois placée devant ou après, n'est pas pareil.
Je pense que, si je peux me permettre deux mots sur sa personne, c'est quelqu'un qui a passé 16 ans dans les prisons d'Assad sans jugement, et une fois libéré, quelques années après la révolution syrienne éclate, et un an plus tard, sa femme est enlevée par l'islamiste, donc c'est quelqu'un qui a souffert des deux côtés. Et l'intérêt de Yassine Haj Saleh, c'est qu'il rapporte quelque chose de plus aux explications qu'on donne sur le phénomène islamiste dans le monde, qui n'est pas seulement le fruit de l'humiliation, de la domination, du fait de l'immigration, du fait que les jeunes sont déboussolés parce qu'il n'y a plus un parti communiste ou des syndicats pour les prendre en charge, ou comme pour les Espagnols et les Portugais, une église catholique pour les prendre en charge. Je pense qu'il apporte quelque chose de plus, à savoir sa maîtrise de l'arabe et cette idée que s'il y a du djihadisme, ce n'est pas seulement à cause de l'humiliation, mais c'est à cause aussi d'un rêve d'empire qu'on n'arrive pas à faire son deuil. Les musulmans vivent toujours, et surtout les arabo-musulmans, parce que Daesh, c'est un phénomène arabo-musulman beaucoup plus que musulman. C'est un monde qui a encore dans la tête l'idée que Bagdad était la capitale du monde au Xe siècle, que le monde musulman était le centre du monde jusqu'au XIIe siècle, et qui n'arrive pas à sortir de ça. Et tant qu'il y a ce rêve d'empire, il y aura toujours cette aigreur doublée à cause de l'humiliation et du fait qu'ils sont déboussolés et qu'ils sont seuls à travers le monde, quoi.
Oui, vous lui consacrez, ou vous décidez de rassembler pas moins de 5 articles, en tout cas contributions le concernant, c'est dire son importance. Il dirige un groupe à Istanbul, la Cumhuriya, la République.
Tout à fait, c'est un très bon média qui sort à Istanbul, où il y a de très belles réflexions, pas seulement sur la Syrie, mais un peu sur le monde musulman, y compris même sur les relations Est-Ouest, enfin Est-Ouest, ça n'existe plus, ça, Nord-Sud plutôt. Et c'est assez intéressant. Il a par exemple aussi évoqué quelque chose qui est très important, peut-être pas pour les musulmans de France, mais pour les musulmans du monde arabe, à savoir les manuels d'histoire. L'histoire du monde arabe est enseignée comme une succession de conquêtes et de victoires. Et tout d'un coup, les gens se retrouvent, mais où sont nos conquêtes, où sont nos victoires? Donc tout ça aussi, ça fait partie de cette aigreur qui alimente toutes sortes de fanatismes religieux.
Donc il y a lieu de repenser totalement presque la vision du monde. Donc.
Et la langue aussi. Et repenser l'arabe, sortir l'arabe de sa rigidité, redonner à l'arabe sa place comme langue universelle et non pas comme langue religieuse. Et ne pas faire un totem. J'étais quand même frappé du dernier attentat de New York où celui qui a commis l'attentat, un ouzbek, avait dans son bagage un texte écrit en arabe comme si c'était un texte contre le mauvais œil.
Ou un talisman.
Ou un talisman, voilà. Et c'est frappant de faire de cette langue-là quelque chose de... de mystérieux, de sacré, de quelque chose qu'on peut pas toucher, quoi. C'est...
Alors qu'elle fut et est véhiculaire du savoir, du cérémonial,
absolument,
des cours, de la philosophie, de la nomenclature scientifique.
Une des plus belles poésies du monde aussi, il faut le dire aussi, absolument.
Et qu'elle est suggestive, et qu'elle est lyrique aussi, s'apprête en tout cas au lyrisme et au chant. Il y a toute une partie de l'ouvrage intitulé « Questions d'islam ». Et il se trouve que l'émission elle-même s'intitule « Questions d'islam ». Et donc ces questions au pluriel, vous les avez reprises une à une à propos de quoi ? Des lumières ou rien ? Les lumières, c'est-à-dire l'aufklärung, les lumières occidentales, sinon rien. Parce qu'elles ont une portée, un éclairage, si je puis dire, en parlant de l'aufklärung, universel.
Mais ces lumières ont été portées par le monde musulman à la fin du 19e siècle. Personne n'a dit « je rejette les lumières du 18e siècle parce qu'elles sont occidentales ». Elles ont été portées et elles ont été enrichies par un grand nombre d'intellectuels musulmans, égyptiens, syriens, libanais, à la fin jusqu'aux années 30-40. Donc, cette idée que on rejette quelque chose d'importé est totalement absurde, quoi.
Et celui qui en parle est un intellectuel saoudien, Mohamed Ali Mahmoud.
Tout à fait.
Et pour lui, comme vous le dites si bien, ça n'a aucun sens de croire que c'est incongru, halogène, intrus, en tout cas étranger à la vision du monde islamique, que d'adhérer aux valeurs des Lumières.
Ces Lumières viennent aussi de la Grèce antique et de l'islam et de Rome et de tout le passé humain, quoi.
Donc c'est une longue et lente construction humaine et l'intérêt des humanistes, c'est d'avoir cette approche cumulative de ce qui promeut la dignité humaine.
Tout à fait.
Alors il y a aussi un autre aspect qui est... un manifeste pour un islam de liberté et de citoyenneté. Ce manifeste a aussi son importance. C'est un groupe, un collectif d'auteurs, d'intellectuels canadiens, musulmans, québécois en l'occurrence, et qui ont signé cette tribune dans le Devoir, un journal de Montréal.
Mais je pense que ce type de manifeste est paru aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Italie, qu'en Grande-Bretagne. On a choisi celui-là parce qu'il était peut-être le plus intéressant, mais l'idée que le monde musulman est apathique, que les musulmans ne réagissent pas, que à chaque fois qu'il y a un attentat, on dit pourquoi les musulmans ne signent pas des pétitions, pourquoi ils ne descendent pas dans la rue, est moitié vrai, mais moitié fausse aussi, parce que on le trouve, on les voit. Et ces gens-là, quand ils signent et qu'ils vivent dans un pays comme l'Irak ou la Syrie ou l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, bon, ils risquent aussi leur vie. Ce n'est pas aussi une chose aussi simple que ça, quoi.
Et en revanche, il y a peut-être l'idée de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une lame de fond qui tous les citoyens ordinaires?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a des raisons d'ordre sociologique, il y a des raisons du fait que pour ceux qui sont en France, ils viennent de pays où manifester ne faisait pas partie de la culture de tous les jours, où manifester pouvait amener en prison. Il y a des gens qui ont le souci de gagner leur vie quotidienne avant de manifester. Mais en même temps, ça c'est la question, il est beaucoup plus facile de les voir manifester quand il s'agit des caricatures danoises contre le prophète que de manifester quand il s'agit d'attentats qui a tué 100 personnes. Je crois que c'est une démarche lente, mais qui va dans le bon sens. J'aimerais ajouter aussi une chose, que l'idée que beaucoup d'islamophiles, pour ne pas dire islamophobes, se font du monde des musulmans en France est un peu fausse. Je veux dire, actuellement, l'idée de dire que les musulmans, c'est Gennevilliers, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est comme si dire, comme on disait la classe ouvrière, il faut pas désespérer Biancourt. Les musulmans français, il y a une classe moyenne qui existe partout maintenant, je veux dire. Et je pense malheureusement que dans quelques années, le racisme anti-musulman va ressembler au racisme anti-juif, à savoir, ils sont partout. Ce n'est plus, ils sont dans les banlieues et ils foutent le chaos dans les banlieues. Non, ils sont, c'est le commerçant, c'est le médecin, c'est l'ingénieur, qui sont là dans la cité, ils ne sont plus en dehors de la cité.
Et parfois, j'ajoute, ceux qui sauvent le marché des hurlings à Deauville et le marché des pouliches à Longchamp,
voilà,
aussi. Mais bon, ce ne sont pas ceux-là qui nous intéressent. Il y a aussi les prises de position des femmes d'audace, de courage, et qui s'insurge contre le voilement qui n'existait pas il y a encore quelques années en contexte islamique.
Mais tout à fait, je pensais ça, c'est un cri de colère parce que contre ce hold-up pris sur le vécu des gens. Je veux dire, les musulmans se sentaient musulmans sans voile, et à aucun moment elles se sont senties bouddhistes parce qu'elles ne mettaient pas un voile. Et face à ça, il y a quand même une... Et ça, c'est beaucoup plus une gauche anglo-saxonne qu'une gauche française qu'on considère à tort comme une gauche jacobine et autoritaire, où il y a une sorte de paresse intellectuelle, où on n'a pas envie de discuter du voile. Genre, c'est juste une question de liberté. La femme peut porter un bikini ou porter un voile. Mais non, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, on peut porter le voile pour mille raisons, pour des raisons religieuses, sentimentales, pour des raisons économiques, ou pour pouvoir sortir de la maison, tout simplement. Mais il y a une symbolique qui n'est pas dans le vêtement traditionnel. Une femme qui s'habille en sari ou en kimono, ou un homme qui porte un kilt, n'est pas liée par des considérations politiques et idéologiques comme une personne qui porte le voile. Et puis le voile, quand même, il y a quelque chose d'ordre, quelque chose de discriminatoire dans le voile qui est terrifiant. Le voile, c'est le seul symbole soi-disant religieux qui n'est obligatoire que devant les hommes. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour une fille de 13 ans, un garçon de 13 ans, c'est un violeur. Quelqu'un qui a des enfants a envie de voir dans son fils de 13 ans, qui ne sait même pas ce que c'est sa sexualité, un violeur potentiel. C'est terrifiant comme image du monde où le monde se divise entre violeur et violé.
Oui, et les dégâts psychologiques qui découlent
tout à fait
de cette éducation sont terribles.
Tout à fait.
Et néfastes. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam en partenariat avec Courrier International. Nous parlons de l'islam en débat avec Marc Saguier, le chef du service Moyen-Orient de Courrier International. Et le fruit de cette collaboration est cet ouvrage qui finalement parle depuis le 11 septembre jusqu'à Daesh de cet islamisme, l'islamisme politique, et puis ces convulsions paroxystiques que sont le djihadisme abject et assassin. Continuons toujours dans ce chapitre qui s'intitule justement « Questions d'islam ». Je ne sais pas qui vous a inspiré, est-ce que c'est notre émission ou pas.
Un peu.
Toujours est-il que le féminisme islamique n'a pas de sens, ça serait même oxymorique pour certains. Pour certaines, et une intellectuelle, la journaliste et écrivaine Fawzia Zouhari parle là aussi d'une sorte d'escroquerie morale que de vouloir parler de féminisme islamique.
Oui, je pense.
Ou islamiste.
Je pense que l'islamisme, c'est quand même une victoire de 150% de l'homme sur la femme. Donc, essayer d'extirper des choses, de dire qu'on peut être islamiste et féministe. Je suis d'accord avec le texte de Fawzia. Je suis pas toujours d'accord avec tous les textes, mais je suis d'accord avec cette idée-là, un peu angélique, d'essayer de montrer qu'on peut être islamiste et féministe. Je pense que la force de l'islamisme, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afghanistan, après des années de talibans, les talibans restent populaires, c'est quand même la force de l'homme sur la femme. C'est une victoire. Il n'y a pas de Sherazade dans l'islamisme. Il n'y a pas quelqu'un qui va raconter au prince une belle histoire et avoir des droits. Et c'est terrifiant d'imaginer qu'on peut être féministe dans ces conditions les plus obscures.
Pourtant, la culture et la civilisation même du raffinement, du plaisir, de flatter les sens, ont été une caractéristique particulière de la civilisation islamique. Comment peut-on expliquer ce retournement de situation?
Je pense que, et ça c'est aussi, je reviens à notre ami Yassine H. Saleh, c'est que actuellement en Occident on a l'impression que les dictatures militaires vont nous protéger de l'islamisme, alors que l'islamisme est le fils de ces dictatures militaires. Je crois que...
Et l'allié objectif aussi.
Mais aussi c'est l'injustice sociale, c'est l'absence de la beauté, c'est l'autoritarisme qui fait que l'islamisme, c'est dans ces conditions que l'islamisme est né. Et d'ailleurs, comme on disait, Daesh a été formé la plupart. Quand on regarde qui sont les cadres de Daesh, ce sont tous des anciens officiers de Saddam Hussein, des bassistes, qui soi-disant étaient un parti laïque non islamiste. Et tant qu'on n'a pas vaincu cette injustice sociale, ces dictatures qui ont bouché des sociétés entières pendant 70 ans, qui les ont coupées du monde, qui les ont coupées de toutes les valeurs, on n'arrivera pas à vaincre l'islamisme. Ce n'est pas Assad qui est le mur face à l'islamisme, c'est lui qui nourrit l'islamisme.
Oui. Donc c'est à la fois un travail d'ordre politique, de démocratiser les sociétés, libérer les régimes, ça c'est fondamental et c'est impérieux, et en même temps insuffler de la culture, des arts, l'amour de la beauté, l'inclination pour les valeurs esthétiques, etc., pour renouer avec la civilisation.
Tout à fait. Et surtout, s'adresser aux classes les plus défavorisées. Parce que l'art, la culture, la beauté, ce n'est pas l'apanage des élites occidentalisées, s'il faut utiliser ce terme-là, mais c'est quelque chose qui peut être accessible à tout le monde.
Avant tout, c'est une question de justice sociale et de recouvrer la dignité
tout
humaine.
Tout à fait, tout à fait.
Pour tarir, c'est une des explications qu'on donne, le terreau, en tout cas séché, ce qui va nourrir l'islamisme politique et aussi dans sa version djihadiste.
Et la plus abjecte, je ne sais pas ce qui nous attend après Daesh, parce qu'avec Al-Qaïda, on a cru qu'on avait atteint le summum, et puis avec Daesh, l'Al-Qaïda passe pour un mouvement banal.
Oui, alors, on dit souvent qu'une crise ne se dénoue que lorsqu'elle atteint son paroxysme, et d'aucuns pensent que le paroxysme est déjà atteint avec cette monstruosité idéologique et religieuse qu'est Daesh. Alors, je ne sais pas si maintenant il va y avoir une sorte de guerre dite par fragments un peu partout de par le monde ou pas. L'important, c'est comment intellectuellement tordre le cou à des idées reçues de l'intérieur. Il y a aussi cette contribution d'un Houssam Itani, qui lui dit que ça ne suffit pas uniquement d'appeler au changement. Qu'est-ce qu'il préconise?
Lui, il préconise un progrès économique qui pourrait créer des classes moyennes capables de prendre en charge les changements religieux. Mais sa thèse, bon, je suis que moyennement d'accord, vu ce qu'ils disent, c'est vrai, que les librairies sont pleines d'ouvrages « Comment réformer l'islam ?» et ça n'a pas avancé d'un iota les réformes. Mais en même temps, si on regarde un peu des sociétés comme la société turque, qui a quand même connu une croissance économique extraordinaire, qui a une vraie classe moyenne, qui défend les acquis de la société civile et qui reste ballottée depuis 70 ans, grosso modo, entre deux pôles, l'armée et les islamistes. Si on regarde les sociétés asiatiques aussi, qui ont des classes moyennes fortes et présentes, mais tout ceci n'a pas fait avancer le schmilblick.
Oui, parce qu'il y a aussi ce contributeur de Malaisie qui ne comprend pas pourquoi la société de son pays, finalement, s'est endurcie et s'est recroquevillée. Alors, est-ce dû à la déferlante wahhabou et salafiste, si je peux parler aussi comme ça, ou est-ce que il y a un passage dans le temps et en cette charnière de deux siècles, le 20e finissant et le 21e dont on a mangé presque deux décades, qui explique ces soubresauts?
Je ne sais pas jusqu'à quel point le conflit israélo-palestinien a augmenté l'aigreur entre le monde musulman et l'Occident. Je ne sais pas si c'est une piste à voir et si la fin de ce conflit, un jour, je ne sais pas quand, pourrait amener à une forme de réconciliation et d'apaisement.
Oui, à ce sujet, il y a un auteur israélien qui dit, à propos de cette contribution, quand il a vu celle de palestinienne, « Ceci m'a réconcilié avec les Palestiniens, palestiniennes. »
Mais absolument, parce que, je veux dire, dans le monde arabe, on a l'impression que les Israéliens sont tous des monstres, et chez les Israéliens ou chez les pro-Israéliens, on a l'impression que tous les Palestiniens ne rêvent que d'égorger des Israéliens et de se lancer dans des actions militaires. Et une des raisons de ce livre, c'est aussi montrer le côté que les humains partagent beaucoup de choses en commun, même quand ils sont ennemis.
Alors, à ce sujet, il y a donc une militante palestinienne des droits des femmes et qui s'insurge contre ce qui se passe à Trappes. Pourtant, elle ne vit pas en France, mais comme elle a eu vent de ce qui se passe, à un moment donné, il y a eu cette affaire de burqa ou de voile intégrale, et elle trouve que la réaction aussi bien du mari stupide et de ses concitoyens corrélégionnaires est tout à fait inacceptable.
Mais je pense qu'il y a une soif occidentale, et beaucoup plus chez la gauche que chez la droite, d'entendre ces voix. Cet article-là, que nous l'avons passé sur le site de Courrier International, il n'y a aucun article de courrier qui a été autant liké, et je suis sûr qu'il n'a pas été liké par des racistes d'extrême droite, il a été liké par des gens de gauche qui ont envie de voir des gens qui réfléchissent comme eux et qui pensent comme eux et que eux n'osent pas le faire pour ne pas être traités de racistes et d'islamophobes. Je pense que il faut à tout prix que l'autocritique ne soit pas laissée à l'extrême droite européenne. Enfin, c'est pas une autocritique dans ce cas-là. Que la critique ne soit pas laissée à l'extrême droite européenne, mais qu'elle émane des musulmans eux-mêmes ou de ceux qui se considèrent appartenant au monde musulman.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que cet ouvrage a son importance capitale. J'ai dit en début d'émission que vous avez colligé, rassemblé, compilé, pas la totalité, mais une bonne partie, une cinquantaine, en tout cas, de contributions, d'articles, de prises de position de ces auteurs, intellectuels, écrivains, journalistes, hommes et femmes. Vous avez respecté globalement la parité. Et puis, un de ces articles ou une plateforme, c'est cette fameuse lettre ouverte au pseudo ou au prétendu État islamique intitulée « Ce que notre religion interdit ». C'est très peu connu, enfin, en dehors des milieux autorisés, comme on dit, cette fameuse lettre ouverte à l'État islamique.
Je veux dire, si on lit la lettre, on trouve que des évidences, mais malheureusement, ce sont les évidences qui manquent au débat de nos jours aujourd'hui. Effectivement, je veux dire, tout ce que le texte dit, quand on réfléchit bien, oui, bien c'est évident que l'islam interdit tout ça.
Malheureusement, c'est comme si on devait parler de la neige en plein hiver.
Oui, donc, tout à fait, voilà.
C'est d'évidence. Quand je lis, moi aussi, quand s'adresse aux théoriciens et même aux assassins de Daesh, et quand on leur dit 10e proposition ou 10e prise de position, dans notre religion, il est interdit de blesser ou de maltraiter de quelque façon que ce soit des chrétiens ou des juifs ou les gens du livre, c'est, et en plus par la suite, quelque humain que ce soit, c'est d'évidence.
Tout à fait, mais je pense, mais au-delà de ces évidences-là, il y a toute une partie de ce livre-là où les auteurs n'ont pas envie de rentrer dans des débats théologiques, en disant le rôle de l'intellectuel, c'est pas de faire des fatwas modérés en face de fatwas extrémistes, mais de réclamer la séparation de l'Église et de l'État, enfin de la mosquée et de l'État. Et je pense que je viens de lire cette semaine un très beau texte d'un Égyptien qui parle de cette histoire de fatwa qu'en Égypte on a installé dans le métro, où le croyant déboussolé vient voir un cheikh dans le métro et lui demande « Est-ce que j'ai le droit de descendre à une station de métro qui s'appelle Saint-Georges ou pas ?» Et le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas de répondre à ce genre de questions, c'est de réclamer cette séparation et que la fatwa ne soit pas quelque chose qui régit la vie des citoyens. Elle peut régir la vie des croyants, mais pas la vie des citoyens.
Oui, oui. Et toujours dans ces prises de position qui finalement relèvent, encore une fois, de l'évidence, et quand il est dit la réintroduction de l'esclavage est totalement abolie par consensus universel, c'est une réponse faite à ces fous furieux, à ces criminels de Daesh qui réduisent en esclavage les Yézidis, par exemple.
Je pense que ça fait partie aussi de ce que je disais, que cet islamisme-là, s'il est populaire, c'est une victoire écrasante de l'homme sur la femme. On n'a pas vu des esclaves hommes chez Daesh, on a vu que des esclaves femmes.
Il y a aussi cet article intitulé « Sortir du déni ». Alors, de quel déni s'agissait-il? C'est un intellectuel sénégalais.
Le déni, c'est dire à chaque fois, l'islam n'a rien à voir avec ça, je veux dire.
Pas d'amalgame.
Pas d'amalgame, pas d'islamophobie. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que, je sais pas, j'imagine que vous avez souvent discuté de cette notion d'islamophobie et qui, dans le cas du racisme anti-musulman, comporte deux choses totalement qui n'ont rien à voir.
C'est pour ça que nous avons parlé de mise-islamie et d'islamophobie. La mise islamique, c'est la haine ou la détestation.
Il y a une différence entre la haine des musulmans et la critique d'une religion. Quand on critique Jésus ou Moïse, personne ne va vous accuser de vouloir massacrer les chrétiens ou les juifs. Pourquoi, lorsqu'il y a une critique qui peut être très mauvaise, enfin, peu importe, pourquoi, lorsque quelqu'un critique une religion d'islam, on devient tout d'un coup islamophobe et mélangé à l'idée qu'on déteste les musulmans? C'est totalement faux, je veux dire.
Et ça n'a aucun sens. D'ailleurs, les traditions religieuses ne peuvent être affirmées qu'avec que la dans critique, la critique.
Absolument,
bien entendu.
Absolument.
Et de ce point de vue-là, la critique est tout à fait recevable et elle est nécessaire. Sinon, elle se vulnérabilise.
Tout à fait.
Et il ne lui reste plus, redoutant l'asphyxie, que la terreur pour pouvoir subsister encore quelques instants tout en la desservant. Ça, c'est sûr. Il y a toute une partie concernant l'ouverture sur autrui, l'altérité, et notamment l'altérité confessionnelle. Et donc, beaucoup de contributions vont dans le sens de empathie dans les contextes islamiques, d'un manque de curiosité, d'ouverture, d'intérêt pour autrui, et tout particulièrement, ce qui est étonnant, pour le proche dans la croyance, le juif et le chrétien.
Mais je pense que la majorité des musulmans n'ont pas vécu avant le XXe siècle dans des pays où ils n'étaient pas majoritaires. Et donc ça a été un choc d'arriver, surtout au XXe siècle, arriver dans des cultures dominatrices et pouvoir s'ouvrir à ces cultures-là. Je pense que l'antisémitisme, c'est aussi un autre chapitre, parce que c'est, d'une part, il ressemble quelque part à la haine des occidentaux chrétiens, mais aussi qui a des racines de légitimité, de légitimisation, et qui puise aussi bien dans le conflit israélo-palestinien que dans l'Algérie française, et qui se transmet d'une famille à une autre. Et je pense que tant que des musulmans ne sortent pas de cette haine de l'autre qui est leur frère, le monde ne peut pas évoluer, quoi. Enfin, c'est...
Et un des contributeurs, Nasser al-Abad, disait que même les explorateurs, les géographes, les cartographes, ceux qui ont arpenté les terres, ceux qui ont sillonné les mers, allaient aux confins de l'Empire. Parfois, ils le dépassent, mais ça reste peuplé, parfois des choses qui ne sont pas tout à fait exactes sur les peuplades. Et...
Ce n'est pas grave. Je veux dire, tous les Européens qui ont traversé les mers aussi ont raconté des histoires. Mais il y a effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du manque de curiosité quelquefois, et je ne sais pas s'il est dû au fait à cet esprit communautaire où ce qu'il y a à l'extérieur n'est pas intéressant. Je dis, il y a des pays, mais je ne pense pas que ce soit une question de religion. Il y a des pays où, si vous allez en Égypte, on vous dit l'Égypte c'est la mère du monde et que bon, tout ce qui est en dehors d'Égypte n'a aucun intérêt, quoi. Donc il y a des pays qui se suffisent à eux-mêmes et on a l'impression que il y a des musulmans qui se suffisent à eux-mêmes.
Oui, mais ce qui est mortel, justement, c'est cette suffisance qui parfois dégénère en arrogance.
Mais absolument, non, mais c'est, je ne dis jamais que c'était une qualité en soi.
Oui, en revanche, être fier de soi-même tout en étant ouvert sur autrui et s'inspirer, s'enrichir, bien entendu, c'est un truisme que de le dire, des apports d'autrui, ça fait l'humanité. Il y a un titre qui m'a intrigué, c'est « Un terrorisme à part ». Pourquoi est-ce qu'il serait à part ? Parce qu'il est d'essence religieuse, d'inspiration religieuse, ou qu'est-ce qui le caractérise ? C'est un article d'Akram al-Bouni.
Oui, je pense que bon, même si on ne peut pas traiter les islamistes de nihilistes, il y a une part de nihilisme dans l'islamisme qui n'est pas dans les autres. Je veux dire, je prends un petit exemple. L'Europe a connu des mouvements terroristes, la bande Abadère, Action Directe, en Italie, un peu partout. Mais ces gens-là, ils ciblaient leurs victimes, ils ciblaient des hommes politiques, des militaires, des milliardaires, enfin peu importe. Et le but, c'était de changer, de transformer la société.
Et de gagner la sympathie de la population, une partie de la population.
Et si on veut pas gagner la sympathie, au contraire. Je veux dire, cette semaine, on a commémoré le 13 novembre. Les attentats se sont passés dans les quartiers où majoritairement la population est pro-immigrée. C'est le public de Touche pas à mon pote, le public qui défend les immigrés. Et c'est là qu'il y a eu les massacres. Donc, et ce n'est pas pour réformer la France ou améliorer la France, c'est pour détruire ce pays, je veux dire. Et c'est ça qui est nouveau dans ce terrorisme-là et que les gens ne voient pas vraiment.
Et donc, il y a une approche un peu expéditive, punitive, destructrice, résultant simplement de la haine, où il y a une stratégie derrière de destruction et d'annihilation.
Non, il y a une stratégie de destruction. Effectivement, il y a une stratégie de destruction et toujours cette idée du deuil de l'Empire, de détruire ce qui nous a relégués à une classe bien en arrière alors que nous étions les maîtres du monde.
Les assassins qui ont commis ces attentats abjects en ont conscience ou ce sont simplement que des exécutants et que les stratèges, si je puis dire, étaient à Raqqa ou à Mossoul ou ailleurs?
Écoutez, je ne sais pas très bien, mais je pense quand même que tous les djihadistes ont conscience que le monde musulman était le maître du monde et pourquoi il n'est plus, c'est parce qu'il y a eu un Occident, parce qu'il y a eu des Juifs, parce qu'il y a eu des chrétiens, parce qu'il y a eu du colonialisme, pourquoi pas. Et tout ceci ne fait que contribuer à cette haine aveugle, quoi.
Et la haine, malheureusement, se suralimente de la haine. Et donc, à un moment donné, il faudrait savoir stopper cela. Toujours facile à dire qu'à faire. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le journaliste Marc Saguier, chef du service Moyen-Orient de Courrier International. Nous parlons de cette collaboration et ce partenariat entre France Culture et Courrier International qui finalement a produit cet ouvrage, L'Islam en débat, du 11 septembre à Daesh, les défis de l'islam politique. Et donc cet ouvrage est une compilation d'une cinquantaine d'articles, de prises de position, de tribunes, d'intellectuels, écrivains, auteurs, hommes et femmes, musulmans ou culture, ou de culture musulmane. Dans cette dernière partie, si vous voulez bien, Marc Saguier, on va parler aussi de cette contribution de Maya Delabaume, la journaliste, qui s'interroge sur les nouveaux convertis, ceux qui s'islamisent, et parfois pas nécessairement pour des considérations purement spirituelles.
Oui, écoutez, c'est un phénomène qui interroge toutes les sociétés occidentales. Qu'est-ce qui pousse un Français, un Suédois, un Anglais, un Allemand, une Allemande à se convertir dans la perspective du djihad? Est-ce que c'est la grisaille de la vie de tous les jours? Est-ce que le fait qu'ils se sentent marginalisés, déboussolés? Ou est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque un rêve aux sociétés occidentales pour qu'on soit arrivé là, quoi?
C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, si vous me pardonnez l'anglicisme, what went wrong? Qu'est-ce qui n'allait pas pour arriver à cette solution?
Et pour choisir la pire des alternatives. Ils n'ont pas choisi une meilleure alternative. Alors, à la grisaille des banlieues, ils ont choisi la pire des alternatives, à savoir s'enfermer dans un état régi par la terreur et par l'arbitraire. Et par les méthodes les plus cruelles que l'homme peut imaginer.
Oui. Et ça ne suffit pas de dire, parce qu'on a vu des enfants martyrisés ou mourir sous les bombes d'Assad.
On a vu des enfants sous le napalm au Vietnam, et ça n'a pas poussé les gens à aller vivre au Vietnam. Je veux dire, ça a poussé les gens à manifester contre la guerre du Vietnam, mais ça n'a pas poussé à créer un État anti-américain régi par la terreur au Nord-Vietnam.
Oui, ça reste énigmatique où il y a des tentatives d'esquisses de réponses selon le champ de compétences des observateurs. Parfois, il y a des analyses misérables et médiocres, mais dans certains cas, il y a l'approche sociologisante, il y a l'approche psychanalytique, il y a une réponse théologique peut-être, il y a une analyse géopolitique, ou c'est un peu de tout, ou il y en a une que vous privilégiez sur d'autres?
Non, écoutez, je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'expliquer l'engouement des arabo-islamistes pour le djihadisme, les arabo-musulmans pour le djihadisme, que d'expliquer l'engouement des convertis. Mais c'est toujours le problème des convertis. Les convertis sont toujours beaucoup plus fanatiques parce qu'ils ont approuvé quelque chose que les non-convertis, que ceux qui naissent musulmans. Je pense, dans tous les domaines, un converti a toujours le besoin de prouver qu'il est beaucoup plus radical que celui qui est né dans une culture, dans une religion ou dans un monde.
Et il y a l'excès de zèle du prosélyte.
Voilà.
Parce que le prosélyte n'est pas celui qui en fait, c'est celui qui est gagné par une action de prosélytisme. Je le souligne parce qu'on l'oublie souvent. Il y a un autre aspect qui n'est pas tout à fait connu, ce sont les prises de position de citoyens, en l'espèce là, égyptiens, musulmans, pour s'insurger contre le sort fait aux minorités. En réalité, il ne doit pas y avoir de minorité ou de majorité qu'au Parlement dans un État démocratique. Mais là, les minorités confessionnelles, quand par exemple il y a une hostilité contre les Coptes ou contre les chrétiens d'Orient, on n'entend pas suffisamment donc ces prises de position. Et donc cet ouvrage donne la parole à ceux qui fustigent et qui s'insurgent contre le traitement fait à leurs propres concitoyens.
Mais parce que quand il y a un attentat à Paris ou à Londres ou à Madrid, c'est très facile de dire ça, c'est une des conséquences du colonialisme. Mais qu'est-ce que les yézidis ou les coptes ont fait contre les musulmans pour qu'ils subissent un châtiment aussi cruel?
Alors qu'ils étaient chez eux.
Alors qu'ils sont chez eux, oui. Qu'ils sont chez eux, et bon, même s'ils sont pas chez eux, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment expliquer ça? Je veux dire, ça c'est une réponse cinglante à tout ce qui essaye d'expliquer le djihadisme comme une conséquence du colonialisme et faire du mea culpa toute la journée en Occident. Voilà des peuples, voilà des femmes yézidis, voilà des coptes, voilà des chrétiens d'Orient, voilà. Et qui sont traités de la façon la plus barbare, alors qu'ils n'ont jamais mis les bâtons dans les roues de l'islam ou des musulmans. Quoi.
C'est que ces intellectuels qui s'insurgent contre ce sort, qui sont musulmans et qui le disent, leur voix ne porte pas dans le vacarme tumultueux. Alors comment faire pour...
Oui, je vous en prie. Mais je pense que si leur voix ne porte pas, c'est que les régimes soi-disant laïcs du nasserisme, du bassisme, ont toujours enlever du paysage politique les minorités et ont toujours, quelque part, tout en se réclamant de je ne sais quelle laïcité, ont toujours poussé les instincts les plus vils de l'islamisme.
Parce que ça les arrange.
Mais bien sûr, bien sûr.
Dès lors que leur légitimité plus que douteuse se fisse, puisque j'emprunte votre propos, l'islamisme est le fils de ces dictatures.
Tout à fait.
Et leur produit, et donc ça les arrange qu'ils l'alimentent et qu'ils le mettent comme ça en avant.
Mais bien sûr, je pense que, par exemple, tout le monde est très heureux de voir cette vidéo sur Nasser qui se moque l'idée de voiler les femmes musulmanes. Mais le nasserisme, quand même, ça a été un nationalisme musulman, très religieux. C'est à l'époque du nasserisme que les Coptes enseignent l'arabe. En Égypte, qu'on a limité le nombre des lieux de culte pour les Coptes, qu'on a dit que une église ne peut pas avoir une tour plus haute qu'un minaret. Enfin, toutes ces codifications-là viennent quand même des régimes qui se disent nationalistes et soi-disant laïques.
Oui. Donc le maître mot pour la sortie de l'ornière, c'est démocratiser la société et libéraliser les régimes.
Mais absolument. Je pense qu'il n'y aura pas de fin d'islamisme sans fin de ces dictatures qui empoisonnent ce monde musulman depuis les années 40.
Là, c'est tous azimuts que nous parlons et en nous approchant du terme de l'émission, il y a encore cette notion que l'Occident, finalement, n'est pas le mal absolu.
Déjà, il y a des Occidents. Et effectivement, il n'y a pas une culture qui est le mal absolu. Il n'y a pas une région du monde. L'Asie non plus n'est pas le mal absolu. L'Amérique latine non plus.
Donc, contribution.
Absolument. Non, mais je veux dire, ce livre-là évoque souvent des choses évidentes, mais qui paraissent tellement lointaines de la réflexion qu'on se fait actuellement dans le monde musulman. Dire c'est présenter l'Occident comme le mal absolu, le lieu de débauche, le lieu de domination culturelle et politique et économique, c'est oublier et les Lumières et les sociétés civiles et tous ceux qui se sont solidarisés avec le tiers-monde et tous ceux qui se sont solidarisés avec le monde musulman et l'ouverture des universités, il y a tellement de choses dans cet Occident que le dénigrer en le traitant de mal absolu est un non-sens.
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans des approches essentialistes, réductrices, de type d'un côté on a l'Iran par exemple faisant partie de l'axe du mal et fait partie des États voyous, de l'autre côté pas que l'Amérique, mais l'Occident, c'est le grand Satan. Les choses sont à la fois beaucoup plus complexes que cela, et la perception des intellectuels musulmans est tout autre.
Tout à fait, mais en plus, et avec la montée du populisme en Occident, il devient encore plus difficile de montrer que cet Occident n'est pas le mal absolu. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple de défendre l'Amérique de Clinton, c'est beaucoup plus difficile de défendre l'Amérique de Trump. Donc, nous allons dans un monde, effectivement, où l'essentialisme, la pieuvre de ce monde a encore de beaux jours devant lui.
Surtout, en finir, c'est ce que disent ces intellectuels, avec une présentation très très biaisée de la société occidentale comme étant dépravée, permissive, celle de la déchéance et du délitement de la morale et du lien social.
Tout à fait. C'est pour cette raison, par exemple, que quelqu'un comme Poutine est actuellement un héros dans le monde, alors que bon. Il a massacré des musulmans tchétchènes, il fait taire 50 millions de musulmans russes, est un héros dans le monde musulman, parce que c'est lui qui défend les valeurs les plus conservatrices et les plus traditionnelles, entre autres.
Finalement, votre idée, c'est de donner la parole parce que ça n'est pas suffisamment entendu, ou c'est que vous allez, permettez-moi l'expression, faire un effet de loupe, un effet de zoom sur ce qui est méconnu par les lecteurs honnêtes.
Écoutez, c'est juste montrer que dans le monde musulman, on débat, que ce n'est pas un monde qui n'est pas sans débat, qu'il y a des gens qui prennent des risques en débattant et qu'ils disent des choses qu'on ne peut pas dire à Paris. C'est ça ce que je voulais montrer. Le plus important pour moi, c'est montrer que ces gens-là font partie d'une culture universelle et ne veulent pas se couper du monde, et qui sont dans leur pays, qui sont dans leur société, qui sont les enfants de leur siècle, qui ne sont pas des marginaux, et qui disent des choses qu'on a envie d'entendre, et qui des choses qui font du bien à tout le monde, parce que ça montre bien qu'on est tous dans la même planète.
Oui.
J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien, à la fin de, j'ai la conclusion de ce livre est donnée à une écrivaine libanaise qui n'est pas de religion musulmane, mais qui est de culture musulmane, et qui parle de l'importance de la dissidence. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui n'est pas très présent dans la culture musulmane, la dissidence et l'importance de la dissidence pour faire avancer le monde.
Oui, cette notion de dissidence est importante, parce que ce n'est pas en étant dans le mimétisme, dans l'obéissance aveugle, dans le conformisme, dans l'uniformité, mais plutôt à la fois dans le débat et dans la dissidence, mais avec l'éthique de la contradiction.
Tout à fait.
Qu'on fait avancer les sociétés, bien entendu. Peut-être un mot, parce que nous n'en avons pas parlé, l'un des contributeurs, Hamed Abdel-Samad, ce politologue germano-égyptien, parle de l'antisémitisme. Donc, c'est pris à bras le corps, cette question, en contexte islamique.
Je pense que oui, je pense que l'antisémitisme empêche le monde musulman d'avancer. Je pense que tant
pourtant
que...
on dit souvent que les Arabes, souvent, bon, les Arabes sont sémites eux-mêmes.
Oui, non, enfin, je dis, quand on dit antisémitisme, on dit
anti-judaïsme.
Oui. Et je pense, comme on a déjà dit, que ce fléau vient de différents côtés, et que la plupart des attentats ou des infractions anti-juifs qu'on trouve par exemple en France, leurs auteurs ne savent même pas où est la Palestine sur une carte.
Oui. Nous arrivons au terme de notre émission conjointe, Courrier international France Culture. C'était question d'islam avec vous, Marc Saguier. Vous qui êtes le chef de service du Moyen-Orient au Courrier international, merci de nous avoir éclairés. Merci pour votre initiative aussi. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres au pluriel, pas uniquement celui-là, et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Pierre-Yves Charles. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
ندق لكل اخواني اللي برالي لسوانجي ابوك هادي خليني اقول اللي ببالي بلاش نتكلم في الماضي الماضي راح كله جراح دخلوا علينا بمصطلحات غريبه زي حكومه تكنوقراط الفساد كان مالي البلد ريحته فايحه زي تحت الباط والظباط ماشيين بالزمبلك زي روبوكاب بلغه الضاد بعبر عن حاله اضطهاد زمان لو عملت اضراب كنت تضرب بالكرباج هم دول اللي احنا بنسميهم فلول النظام المصري بيضرب فول بانتظام يظبط تمام بتتصدروا في التافهه لسه بتصدروا غزنا لسه بيحصل في غزه بص اللي بيحصل لبلدنا تحرش كل يوم فالحين تتشطروا بعزة طلعنا احنا الاغلبية وانتم بخلة المندسة قبل المواقع الاباحية هاتوا الاصابع الخفية سألوني ايه الانسانية قلت لهم انسان منية موعود والحياة مش لونها بامبي مفيش ورود يا توقف جنبي يا تموت اهتف بعلى صوت لا الحب القرود جي وقت الاسود لا الحب القرود جي وقت الاسود موعود والحياة مش لونها بامبي مفيش ورود يا توقف جنبي يا تموت اهتف بعلى صوت لا الحب القرود جي وقت الاسود أيد اللي مش هاوي مزيكاتي زي سيد مكاوي سيد متقال يا ما قال وانت مش داري لفة الداري أتاري ضميرك مخروم من النص زي الكباري بيتلاعب بينا زي الأتاري لساني حصاني صنت صني عشت ربع قرني هغني لليوم اللي ربنا يرد قلبي عايز أرد أرضي سنة ونص عدت على التنحي ولسه شعبي مش مرضي وحياة سيدي مرسي أبو العباس ما تلومش الثورة على الأحداث كله كان شغال في نفس الجهاز انفلات أمني تبطيء محاكمات كلام لو قلت الواحد أمي كان فهم من زمان اظهر وبان عليك الإخوان عليك الإعلام اللي لسه ما تغيرش من أيام ماما سوزان مات الكلام وأنا بتفرج على نواب البرلمان دافنين راسهم تحت الأرض زي النعام موعود والحياة مش لونها بامبي مفيش ورود يا توقف جنبي يا تموت اهتف بأعلى صوت لا الحب القرود جه وقت الأسود لا الحب القرود جه وقت الأسود موعود والحياة مش لونها بامبي مفيش ورود يا توقف جنبي يا تموت اهدب على صوت لا الحكم القرود جه وقت الأسود لا الحكم القرود جه وقت الأسود